19h23 minutes ce soir, les Blue Jays qui affrontent les Rangers du Texas. Ça se passe du côté de Toronto. Hier, c'était un carnage pour les Blue Jays qui l'ont emporté 19-4 face aux Rangers. Septième grand chelem en saison pour les Blue Jays. Écoute, l'offensive est incroyable. Mais il y a un bonhomme qui est en train de réécrire l'histoire pour les Blue Jays et l'histoire du baseball majeur. C'est Bo Bichet qui, lui, en 15 matchs depuis son entrée avec les Blue Jays de Toronto, est maintenant deuxième dans l'histoire du baseball majeur avec le plus grand nombre de coups sûrs en 15 matchs. Il est juste derrière Joe DiMaggio qui, lui, en 1936, a eu 27 coups sûrs en 15 matchs. Bo Bichet en a 26. C'est en 2019, là. C'est aujourd'hui. Donc, Bo Bichet est en train de réécrire l'histoire. Il est sur place du côté de Toronto pour ce match entre les Blue Jays et les Rangers. Alex Agostino est avec nous. Salut, Alex!
Salut, Jérémy.
Alex, Bo Bichet, c'est incroyable. Ce gars-là frappe partout, des doubles, des triples, des simples. Il trouve le moyen d'aller sur les sentiers tout le temps?
Écoute, c'est un début de carrière phénoménal. Quand tu mentionnes le nom de Joe DiMaggio, puis le baseball, on sait que ça existe depuis plus de 100 ans, puis il égale des records en 15 parties. C'est sûr que c'est un départ canon et ça donne espoir aux partisans des Jays qui sont sur place, aux partisans qui écoutent à travers le Canada, l'équipe de Toronto, parce que Bichet, en plus de ce que tu viens de mentionner, moi, c'est la cinquième partie que je vois ici cette semaine, l'énergie, l'enthousiasme qu'il apporte sur le terrain, il est présentement au bâton, à chaque fois qu'il se présente, les partisans pensent qu'il y a quelque chose qui va arriver, il y a une chose, il joue à 100 000 à l'heure, et ça, c'est tellement rafraîchissant, quand je veux dire par là, il plonge partout pour attraper des balles, que ce soit 0-0 ou 15-0, lorsqu'il frappe une balle au sol, parce qu'il y a une vitesse qu'on n'en parle pas, mais il est très rapide, qui marque au premier but, sur le contact, il prend en 4 secondes, 3.95, 4 secondes. La plupart des coureurs sont entre 4.3 secondes et 4.6 et il se démène constamment. Défensivement, il fait des jeux incroyables. On dirait qu'il voit très bien la balle présentement et il frappe la balle à tous les champs. Il y a une vitesse de bâton hors de l'ordinaire. Son père a joué dans le majeur longtemps, était plus reconnu comme un frappeur de puissance. Je pense que Bo va, écoute, c'est tôt, mais c'est un gars qui peut te donner de la défensive, qui a de la vitesse, qui a un bon bras, va frapper des circuits, mais aussi va frapper pour la moyenne. Et dans l'allée ici à Toronto, il a trouvé la façon de frapper des doubles, que ce soit dans l'allée gauche ou de droite. Très excitant à voir ça.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit, ne tente pas toujours juste de tirer la balle. Le gars, il frappe à tous les champs. Et ça, c'est un signe de maturité pour un jeune joueur comme ça.
Oui, puis maturité, c'est le bon mot. Écoute, c'est un gars qui a été élevé dans le baseball majeur, hein, ou qui a vu son père jouer, son frère plus vieux a été repêché par les Yankees ou présentement qui est Nationals au niveau 2A. C'est une famille de balles. Moi, je l'ai vu évoluer une partie lorsqu'il avait 17 ans dans un showcase. C'est un gars qui avait la même maturité à cet âge-là. Là, les outils, que ce soit ses outils de offensive ou défensive, arrivent à maturité. Il a encore beaucoup à apprendre parce que des fois, il est ce que j'appelle pas anxieux, mais il veut trop bien faire. S'il voit une balle à l'intérieur, là, il appelle en bon québécois, il déverse. Des fois, c'est beaucoup d'élan aussi dans le banc qu'on appelait quand on était jeune. Mais je pense qu'il va faire les ajustements. Présentement, c'est un gars qui est content d'être dans les majeurs. Puis tu le vois, moi, j'étais au terrain à 4 heures aujourd'hui. Et lui et Guerrero et Biggio, avec Charlie Montoya, travaillaient sur leur défensive aujourd'hui. Ils n'ont pas pris d'exercice au bâton. Peut-être que les gars avaient trop mal au bras avec les coups sûrs qu'ils ont eu hier. Mais ils ont travaillé beaucoup sur leur défensive parce qu'ils veulent être des joueurs complets. Puis Bichet, là, il frappe premier. Moi, il amène quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps que les Blue Jays. C'est-à-dire que c'est un gars qui a les partisans. Comme avec Guerrero, à chaque fois qu'il se présente au bâton, les partisans ne veulent pas quitter leur siège.
Alex, j'aimerais que tu prennes juste quelques instants pour expliquer aux gens c'est quoi ton mandat quand tu vas voir des matchs baseball majeur. Je pense qu'on te fait faire une mise à jour. Les Phillies veulent te faire une mise à jour, c'est bien ça?
Ben, chaque débuteur amateur, parce que moi, je fais partie du personnel amateur, on regarde tout le temps des joueurs de 16 à 22 ans, des joueurs d'école secondaire, des joueurs à niveau collégial, mais ils nous donnent toujours une équipe à voir 5 parties pour aiguiser nos yeux et nous donner des comparables. C'est-à-dire, moi, je regarde Bichette, je regarde Guerrero, je regarde des lanceurs du baseball majeur à 95 $. La semaine prochaine, faut que j'aille voir des joueurs de niveau A. Et en septembre, je retourne dans les rangs collégiaux à regarder nos jeunes. Faut que je compare les meilleurs. Tu sais, c'est un joueur au Québec, au Canada, lance 88, puis c'est le meilleur dans son coin. Ça veut pas dire que c'est un prospect professionnel. Alors, de voir les pratiques au bâton, de nous donner des comparables, puis de rester à jour avec qu'est-ce qu'il joue au meilleur niveau. C'est vraiment le fun, là. T'es au terrain de bonheur, tu regardes les pratiques au bâton, tu vois la facilité avec la façon que les gars se déplacent. Beau Bichette, là, quand il court à l'entour au début, ça a l'air, on dirait qu'il y a des patins. Là. Quand il attrape une balle, on dirait que c'est fluide. Et c'est ça qu'on essaie de voir lorsqu'on va voir nos joueurs amateurs aussi.
Alex, si tu me le permets, je vais te parler un peu des Red Sox de Boston parce que j'ai vu passer quelque chose sur les réseaux sociaux qui était tout simplement spectaculaire. Je pense que c'est un journaliste de Boston. En fait, il faut peut-être expliquer que les Red Sox sont présentement troisième dans l'Est de l'Américaine à 17 matchs et demi des Yankees de New York. Les Red Sox sont les champions en titre de la Série mondiale. Et il y a un journaliste qui a mis une séquence de Miracle on Ice, cette équipe américaine qui a remporté la médaille d'or à Lake Placid. Et lorsque l'entraîneur les punit après un match où les joueurs ont été individuels en disant « Tu joues pour le logo en avant et tu joues pas pour ton nom dans le dos et vous allez patiner pour ça. » Et le journaliste de Boston disait « Voilà ce que les Red Sox de Boston devraient faire. Écoutez ce qui se fait présentement dans cet extrait-là parce qu'on manque de synergie d'équipe. » Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ben écoute, je pense que c'est un petit peu, c'est un petit peu avancé et loin. Ce qui manque, c'est ils ont pas de relève. Ils ont perdu Kimbrough. Ils ont décidé de mettre de l'argent ailleurs. Ils ont gardé les gars de l'année passée. Et le plus gros problème qu'ils ont, c'est pas nécessairement leur offensive qui marche pas tout le temps, mais ils ont encore des excellents joueurs, J.D. Martinez, Bogart, Devers au troisième but, Mookie Betts. Parlons de Chris Sale, parlons de David Price, parlons de Nathan Eovaldi à qui on a donné beaucoup d'argent. C'est seulement que moins de 6,25 et une dizaine de parties cette année. C'est là le problème. Évidemment, quand tu as gagné la Série mondiale, de la façon qu'ils ont dominé l'année passée, on s'attend que ce soit facile l'année d'après. Mais regardons l'histoire, c'est vraiment pas le cas. Toutes les équipes qui ont gagné la Série mondiale les dernières années, l'année suivante, c'est pas toujours facile. Alors, je suis pas 100% d'accord là-dessus. Moi, je pense que c'est beaucoup plus une question que les lanceurs n'ont pas fait le travail. J'ai pas mentionné Rick Porcello. Allez regarder les statistiques de ces gars-là. Ils ne lancent pas comme l'année passée. Et oui, ils sont à 17 parties au cul des Yankees, oublions ça. Mais ils sont maintenant à 8 parties et demie d'une place pour le meilleur deuxième derrière les équipes comme Oakland, Minnesota et les Rays de Tampa. Et depuis les 15 dernières parties, ils sont 3-12. Voilà le gros problème. Des fois, la saison précédente a été longue, les séries, la saison morte a été très courte. Mais je regarde du côté des lanceurs et c'est là le plus gros problème du côté des Red Sox.
Penses-tu qu'on peut corriger la situation pour au moins être compétitif pour le meilleur deuxième dans l'Américaine?
Je pense que ça commence à être tard, Jérémy. 8 parties et demie, t'as les Oakland qui jouent bien, t'as Minnesota qui joue bien, t'as les Rays de Tampa qui ne s'en vont pas nulle part non plus. Alors, c'est trop. On peut pas dire jamais parce qu'au baseball, comme Yogi Berra l'a dit, it ain't over till it's over. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. Je pense que la saison 2019 va être une saison qui risque d'être difficile du côté des Red Sox. Puis je vois pas comment, à part que les lanceurs redeviennent dominants, on sait que Chris Sale, Price et Porcello sont des gars capables de dominer les parties, mais ils ne l'ont pas fait cette année. Et dans les deux derniers mois, je ne vois pas nécessairement une grande différence. Et Eovaldi est supposé devenir partant. On devrait être compétitif d'ici la fin de la saison, mais ça ne veut pas dire qu'on va se rendre dans le meilleur deuxième. Je ne m'attends pas à voir les Red Sox dans les séries cette année, malheureusement, pour leurs partisans.
Alors, Alex, on te laisse retourner à ta mise à jour de baseball professionnel. Je te dis un gros merci d'avoir pris du temps pour nous.
Toujours plaisant. Salut, Jérémy.
Merci. Au revoir, Alex Agostino, qui nous parlait en direct du Rogers Center. Vous savez, du côté du Rogers Center, on affronte aujourd'hui les Rangers du Texas et on est en début de première manche. Et c'est toujours 0-0. Milieu de première manche, donc, entre les Rangers du Texas et les Blue Jays de Toronto. On s'est arrêté quelques instants et au retour, un texte de la presse canadienne où... quand tes parents, ça vient rejoindre ta fibre parentale. Parce qu'on apprend, encore une fois, qu'il y a beaucoup d'intimidation et d'abus physiques, psychologiques, sexuels dans le sport. On dit encore qu'il y a plus de 1000 jeunes, au moins âgés de 16 ans et plus, qui sont victimes de ces abus. Il y a une ressource. Cette ressource-là s'appelle SportAid. Vous allez sur Internet, vous faites SportAid et vous êtes en mesure d'avoir des intervenants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont capables de répondre à vos besoins. Qu'est-ce que c'est cet organisme? Son directeur général, Sylvain Croteau, est avec nous au retour.